à Paris, Paris Africa connexion, Africa numéro 1
avec Aïssa Diab.
Sur Africa numéro 1.
La suite avec l'une de nos chroniqueuses régulières installée déjà dans les locaux de la radio africaine sur le plateau, Anne Vaucandé, rédactrice en chef d'Africulture et du magazine papier Afriscope. Elle est venue ce matin accompagner Anne Vaucandé. Bonjour Anne.
Bonjour, et oui, ce matin je suis venue avec deux personnes, deux artistes, donc l'auteur Penda Diouf et le metteur en scène donc Anthony Thibault. Ils font la une du dernier numéro de notre magazine Afriscope, un numéro qui pour ceux ne se sont pas encore procuré,
ouais.
Il est consacré à la thématique du théâtre français, et je crois qu'on est un peu aussi dans les thématiques que vous abordiez tout à l'heure sur les Césars et le manque de diversité, etc. Là, donc c'est de ce dont on va parler ce matin.
Ouais.
Donc nous on a pris comme point d'actu la sortie au cinéma du film Chocolat, qui sort là la semaine prochaine, du réalisateur Roche Dizem, et dont le personnage principal est interprété par Omar Sy. Et donc, il raconte l'histoire de Raphaël Padilla, qui rêvant de devenir comédien et qui a été très célèbre en incarnant le clown Chocolat au début du 19e siècle. Et il a été considéré, même si ce n'est pas tout à fait le cas hein, quand même, comme l'un des premiers artistes noirs de la scène française. Mais on avait déjà oublié ceux qu'il y avait avant. Mais en tout cas, voilà. Et donc, pourtant, cette histoire donc, a été complètement oubliée. Et on a vu en 2015 plusieurs débats qui nous ont montré que le théâtre français manquait cruellement de diversité, que les problématiques de discrimination raciale y étaient très présentes.
Ouais.
Et voilà, et c'est d'ailleurs un débat houleux sur cette thématique de diversité dans le théâtre qu'au Théâtre de la Colline, donc l'année dernière, que nos deux invités se sont rencontrés, se sont plutôt insultés d'ailleurs au départ. Et aujourd'hui, ils lancent donc ce soir un premier cycle de lecture d'un label qu'ils ont créé ensemble pour lutter un petit peu contre ces fléaux. Voilà, donc bonjour Penda et donc Anthony.
Bonjour.
Voilà, donc tout d'abord, peut-être revenons sur votre rencontre. L'article d'Afriscope qui vous est consacré précise, tout a commencé par une insulte lors d'un débat sur l'absence de diversité sur le théâtre français. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
C'est Penda.
C'est moi qui... je suis fautive. J'ai insulté effectivement Anthony. Mais c'est en lien avec ce qui se déroulait autour de nous, c'est-à-dire que l'ambiance était très électrique, c'était une rencontre sur la représentation de la diversité sur les plateaux de théâtre.
Ouais.
Et la rencontre a été très électrique tout de suite parce que des choses ont été abordées, notamment la question de la colonisation,
ouais.
et que sur scène, les personnes qui modéraient la rencontre se sont un peu... se sont crispés en fait. Et cette crispation, elle a un peu contaminé toute la salle. Et elle nous a contaminé aussi, Anthony et moi. Et je l'ai traité de blanc dominant colonialiste.
Voilà. Et en fait, on ne se connaissait pas et elle était juste à côté de moi. Et je suis intervenu parce que je faisais partie en fait de la mise en place,
oui.
De cette soirée. Et voilà, et en fait, au fur et à mesure de l'électricité... j'ai pris la parole de force un peu pour répondre en fait à une question et c'est comme ça en fait qu'elle m'a insulté tout bonnement.
Oui, parce que j'attendais depuis une trentaine de minutes en fait pour qu'on me donne le micro pour intervenir et ça n'a pas été le cas et par deux fois Anthony a pris la parole alors que j'aurais pu la prendre, voilà.
Et alors aujourd'hui, vous avez créé un collectif, un label qui s'appelle Jeunes Textes en Liberté. Qu'est-ce que c'est, du coup, ce label ?
Alors, c'est un label qui promeut en fait les écritures contemporaines, donc les textes qui n'ont pas du tout été édités, qui ont été édités récemment et qui ont été édités il y a longtemps mais qui ont eu peu d'écho.
Ouais.
Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole en fait aux auteurs qu'on voit de moins en moins en fait hein, parce que c'est vrai que le metteur en scène a pris beaucoup de place ces dernières années au théâtre. Et l'idée, c'est vraiment de remettre un peu l'auteur et le texte au centre. Ça, c'est la première idée. Puis la deuxième idée, c'est vraiment cette question de diversité de la représentation en fait.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire du coup? Parce que vous aviez précisé avec un enjeu sur justement autant d'hommes que de femmes, de blancs que de non-blancs, c'est-à-dire comment ça va se...
En fait, on se rend compte au théâtre aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a le théâtre classique a en fait beaucoup d'importance et ultra présent.
Ouais.
En fait, on se rend compte que dans le théâtre contemporain, on se pose plus la question, on voit autant d'hommes que de femmes, à la fois aussi en tant qu'auteur ou autrice. De blanc, non blanc, etc. Et je pense qu'il faut vraiment développer aujourd'hui le théâtre contemporain parce que il est représentatif de notre société. C'est-à-dire, voilà, il y a de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toute une diversité sociale aussi, d'âge, etc. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit développer et rendre visible, en fait, le théâtre contemporain. Je pense qu'on résoudra beaucoup de questions et de problématiques grâce à cet enjeu aussi.
Oui, il y a deux idées par rapport à ça, effectivement. Il y a la première, c'est de travailler sur la narration, donc essayer d'embrasser le plus de monde possible, que un maximum de personnes aient envie de venir au théâtre parce qu'elles s'y retrouvent au niveau des histoires qui sont racontées,
ouais.
Mais aussi par la représentation, à savoir qui met en scène, des metteurs en scène hommes et femmes, blancs et non blancs, et aussi des acteurs sur scène qui sont hommes et femmes, blancs et non blancs. Essayer d'avoir un équilibre, en fait.
Parce que ce que vous constatez, c'est que ce n'est pas le cas sur les scènes nationales aujourd'hui, un peu comme le débat qu'il y a aux Oscars aujourd'hui aux États-Unis. C'est ça ?
Oui, exactement. Effectivement, c'est loin d'être le cas. Et lorsque c'est le cas, malheureusement, il y a très souvent des rôles qui sont très stéréotypés. Quand on a rencontré les comédiens qui ont eu la gentillesse de participer, qui ont eu l'envie de participer avec nous à cette aventure du label Jeune Texte en Liberté, très souvent, ils vont nous dire qu'on leur a demandé de faire un accent africain, par exemple, pendant une audition.
Les spectateurs qui viennent, est-ce qu'ils sont, comment, ils sont non blancs ou ils sont...
Quand on regarde par exemple le théâtre de la Colline, où c'est là où ça a posé vraiment débat, le théâtre de la Colline, on peut dire que c'est quand même principalement des spectateurs blancs, et c'est même principalement le cas en fait dans tous les théâtres parisiens,
voilà,
et même un peu partout en France. Donc c'est là où on est persuadé qu'à partir du moment où on racontera des histoires
qui parlent aux gens, qui sont proches des gens, du coup les non-blancs viendront.
et voilà, et qu'en fait on se pose plein de questions, beaucoup de directeurs se posent des questions, mais comment faire venir des nouveaux spectateurs, etc. Intéressez-vous aux histoires peut-être
qui les intéressent eux.
Voilà.
Et justement, est-ce qu'il y a suffisamment de personnes issues de la diversité qui embrassent des carrières théâtrales et qui passent par des formations théâtrales ? Est-ce qu'il y a suffisamment de représentativité dans les écoles et dans les centres de formation ?
Dans les écoles, il y en a de plus en plus. C'est vrai que l'école de théâtre à Cannes, par exemple, il y a énormément de personnes qui sont noires, qui sont actuellement en formation.
Oui.
Et puis tous les comédiens, ou une bonne partie des comédiens qui font partie du label, sont soit passés par le Théâtre National de Strasbourg, soit par le Conservatoire. Donc on ne peut pas dire qu'il manque de... quoi. Même si c'est toujours à encourager, mais il y a des acteurs non blancs qui sont formés aujourd'hui.
Donc l'enjeu n'est pas sur la formation, mais bien un plafond de verre, en tout cas.
C'est ça. Et l'idée, ça serait vraiment que les metteurs en scène soient moins frileux et arrêtent de se poser la question du spectateur en se disant les spectateurs ne sont pas prêts. Non, c'est pas ça.
Ouais.
Oui, parce qu'en fait, on pose tout le temps la question, mais tiens, pourquoi t'as pris un acteur noir? Qu'est-ce que ça raconte? Voilà, et en fait, faut pas se poser la question dans les autres pays, par exemple en Angleterre. On se pose pas la question de savoir, tiens, Hamlet est noir et il a Ophélie est chinoise, par exemple. On se la pose pas cette question.
Il n'y a que ici, mais c'est relou aussi là, de tout le temps devoir parler en parlant des noirs, des non-noirs, des blancs, des non-blancs. C'est réducteur un peu, je trouve, quand même.
Complètement. Après, je pense qu'il faut c'est nécessaire de le dire et de dire, oui, regardons les plateaux, ils sont tous blancs. Donc on est obligé de dire, et ils sont où les non-blancs ?
C'est nécessaire de le dire et de l'affirmer, puisque de fait, ça participe aux discriminations. Donc à un moment, on est obligé de regarder le problème en face et de dire oui, effectivement.
Je pense qu'au fur et à mesure, ça disparaîtra, en fait. On ne se posera même plus la question.
Donc vous serez pour les quotas, vous, par exemple ?
Moi, j'ai toujours été un peu sceptique par rapport à l'idée des quotas, mais plus le temps passe et plus je suis favorable à cette question-là. Dans la mesure, en plus, c'est des choses qui existent déjà. Par exemple, pour la parité homme-femme, c'est quelque chose qui a été mis en place. Pour les 20% de HLM, c'est pas du tout respecté, hein, on le sait, mais dans les villes, ça a été mis en place aussi. Pour les zones d'éducation prioritaire, ça a été mis en place. Et je pense que c'est des mesures qui sont nécessaires, peut-être sur une courte période. Et le fait d'en parler, en tout cas, peut-être que ça bouscule aussi les choses et que les gens se disent « Ah tiens, effectivement, voilà. Mmh. » Mais moi, je suis plutôt favorable.
Je pense qu'il peut y avoir des quotas, en fait, pour notamment les nominations des directeurs de théâtre.
Ouais.
Parce que, par exemple, en France, la plupart des théâtres, donc des CDN, des centres dramatiques nationaux, qui sont nommés par le gouvernement, par le ministère, en fait, ils sont tous blancs.
Oui, il y a deux noirs, voilà. En fait, qui sont à la Guadeloupe et à la Martinique, donc José Plia et Sainte-Cluyatée.
Alors, vous allez proposer des lectures régulières dans des théâtres, mais aussi dans des bars-restaurants, avec une programmation donc, qui respecte une diversité homme-femme, on le disait, mais aussi blanc, non-blanc. Alors, qu'est-ce qui nous attend, par exemple, ce soir à Main d'œuvre, à Saint-Ouen, où vous lancez la première soirée de ce cycle de lecture. Dites-nous tout.
Alors, ce soir, en fait, c'est un texte de Aurélien Hoover mis en espace par Eugène Gébeléanu. Donc, en fait, les metteurs en scène qu'on a sélectionnés, enfin, c'est même pas sélectionné.
Oui, avec qui on avait envie de travailler, voilà. En fait.
Et du coup, on a réuni en fait plusieurs metteurs en scène. On a sélectionné, on a fait un appel à texte dans le monde entier, en fait.
Oui, on en a reçu 115.
Voilà. Et donc on en a sélectionné 8, donc il y en aura un par mois,
ouais.
Parfois il y a des mois où on en aura deux, et un metteur en scène en fait va prendre en charge un texte. Là le texte d'Aurélien Hoover c'est sur le blocus de Sarajevo, qui est très intéressant parce qu'il interroge les frontières de la ville, sur l'espace de la ville et comment la ville nous contamine aussi. Voilà, et en fait, parce qu'en fait, l'appel à texte qu'on a relayé est sur la thématique de la frontière. Puisque notre but, en fait, c'est d'abolir en fait, les frontières, c'est-à-dire de faire dans les théâtres, à l'extérieur des théâtres, dans Paris et à l'extérieur de Paris, parce que voilà, on trouve que Paris a peut-être trop aussi, qu'il faut revenir à la décentralisation. Et puis tout simplement parce que c'est une thématique très forte aujourd'hui.
Ouais, l'idée c'était vraiment travailler sur la frontière à la fois, donc comme le disait Anthony, géographique, et aussi sur la frontière comme espace mental, c'est-à-dire pourquoi on ne permet pas certaines choses, pourquoi on s'autocensure. Voilà.
Ouais.
Donc l'idée de la barrière en fait. C'était ça qu'on voulait explorer aussi.
Et très vite, c'est avec les écoles que vous allez travailler auprès de jeunes. Pourquoi c'est important pour vous ?
C'est les spectateurs d'aujourd'hui et de demain, et puis c'est aussi l'idée, toujours l'idée de transmission en fait. Qu'est-ce qu'on transmet à la génération future ? Qu'est-ce qu'on a envie de leur léguer comme société ? Et l'idée, oui, c'est de travailler avec les écoles. Donc, on aimerait travailler avec les universités de Paris 8 et Paris 13 parce qu'elles ont un master de création littéraire, pardon. Et donc ça serait l'idée. On a un autre partenariat qui se met doucement en place avec la Comédie de Saint-Étienne et notamment leur école de comédiens.
Voilà, parce qu'en fait, c'est important, je pense, aujourd'hui, éduquer, mais de faire comprendre en fait aux metteurs en scène, aux jeunes metteurs en scène et aux jeunes comédiens qu'il y a une diversité qui existe et que c'est important aujourd'hui de s'interroger là-dessus et d'être sensibilisé. Et après, c'est aussi aller en dehors des écoles théâtrales et d'aller dans les lycées classiques, etc. Et ça, on est en train de réfléchir comment on peut intégrer notamment les lycées et les collèges.
Rendez-vous donc ce soir à Saint-Ouen, au lieu culturel Main d'œuvre. C'est à 19h30 pour le lancement du cycle de lecture du label Jeunes Textes en Liberté. Et les auditeurs peuvent également retrouver l'interview qui vous a été consacrée à tous les deux, il me semble, c'est ça, Anne, dans le dernier magazine Afriscope, Anne Bocandé.
Oui, qui est donc consacrée à la thématique du théâtre français. Et aussi, il y a une deuxième date pour ceux qui le souhaitent. Il y en a une ce soir, donc sur réservation, il faut appeler Main d'œuvre très vite si vous voulez y participer. Et il y a une autre date ce jeudi dans le bar-restaurant, donc chez dans le 20e arrondissement, donc à 18h si je me souviens bien.
Voilà, pour l'apéro à côté de la colline.
Voilà, et donc vous pourrez aussi y retrouver bien sûr le magazine Afriscope, donc magazine culturel citoyen gratuit, disponible donc dans des centaines de lieux en Ile-de-France et bien sûr aussi à la radio africaine, Africa numéro 1 et sur abonnement.
Donc votre histoire en fait a commencé sur un malentendu, j'allais dire.
Exactement.
Voilà. Et mais vous êtes donc tout ça c'est très très joli, mais moi comme j'aime bien les belles histoires, surtout à l'américaine, tu vois. Vous êtes rapprochés amoureusement?
On s'appelle tous les jours, on s'envoie des mails tous les jours, mais on se quitte plus, mais voilà.
Pas encore, mais ça va arriver.
Non, mais on dit souvent que le label, c'est notre bébé.
Voilà. Alors, bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour.
En plus d'être auteur, vous êtes aussi directrice d'une médiathèque à Saint-Ouen, c'est ça?
À Saint-Denis.
Saint-Denis, pardon, où ça?
Dans le quartier du Framoisin, c'est une médiathèque qui s'appelle Ulysse.
Dans la cité là-bas, chez les racailles.
Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la Radio Africaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup Anne Rangandé. Peut-être un dernier mot.
Merci. Non, je vous conseille vraiment de soutenir ce projet. En tout cas, comme nous, on le soutient aussi à Afriscope. C'est un beau projet qui voilà, un bel envol pour nos invités.
Merci beaucoup pour cette jolie rencontre, Anne Bokandé. À bientôt sur l'antenne.
Ma foi, c'est quand même ça pour moi l'Afrique. C'est le continent premier.
Africa numéro 1. Ça, c'est ma radio. La 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 la